Après ça, je me suis attaqué avec Mme Bourguet et avec toute l'équipe à maintenant mettre au jour toutes les merveilles de ce monde fantastique des artistes des grottes. Oui. Bushman.
Alors c'est pourquoi on va créer, enfin c'est en train de se faire, une association française pour l'étude des Bushmen artistes, TRAM. Alors je ne sais pas bien le prononcer. Et alors notre objet c'est de sauvegarder, protéger le travail de recherche et les documents de la famille Hélène-Berger concernant les Bushmen. De mettre en peinture sur toile tous les calques qui n'ont pas été encore utilisés, restaurer certains relevés de peinture, exploiter et mettre en valeur ces documents, ainsi que d'autres, par des publications, conférences, expositions de peinture et d'objets, et par toute autre forme d'expression, en vue de faire connaître en France ce peuple premier, malheureusement disparu aujourd'hui.
C'est voilà. Vous qu'il faudrait s'adresser pour faire partie de cette association ?
Alors, soit à mon adresse, soit au comité de soutien Paul-Hélène Berger, chez Nicole Bourguet, Clairon, 30 260, soit chez Monsieur Paul-Hélène Berger, 198 rue Max Mousseron à Montpellier.
Écrivez-leur, voilà. Vous verrez, si vous avez la chance de les contacter, vous en repartirez différent.
Est-ce que je peux rajouter une petite chose? Parce que tout à l'heure, Monsieur Hélène Berger a parlé d'exposition. Et alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, ça serait de retrouver les 137 fresques qui ont été exposées en 1950 par Victor Hélène Berger. Et ouais. Puis je crois qu'il y avait l'abbé Breuil aussi qui ouais. a participé oui. à mmh. cette exposition. Mmh. Et alors ces 137 fresques donc, qui étaient au Musée de l'Homme se sont volatilisées. Alors on aimerait bien savoir oui. où elles sont.
Il faut demander.
Oui, mais on a demandé.
C'est un solennel appel à la radio. Que toute personne ayant des informations nous dise on a retrouvé les fresques.
Et quelle a été la réponse du Musée de l'Homme?
Évasive.
C'est très, oui, très.
Nos très services très. Feront le mieux pour retrouver.
Et est-ce qu'il y a sur place des gens qui vous soutiennent dans
oui,
ce travail?
Il y a un monsieur qui s'appelle. Manuel Valentin.
Oui. Au Musée de l'Homme, il y a Manuel.
On pourrait Valentin. Organiser du voyage.
Voilà. Mais le problème, c'est que peut-être ça a été rangé dans un autre musée.
Ah. Enfin, en attendant, nous avons avec Madame Nicole Bourguet et tout le groupe, nouveau groupe, toute une collection de peintures. Et je pense que toute personne intéressée dans cet art extraordinaire, très différent de celui d'Europe, pourront rentrer en contact avec nous et on pourra leur montrer quand même pas mal de documents.
Vous pouvez téléphoner à la radio si vous voulez, hein, au 04 67 63 11 22. Un peu de musique.
Je dis juste un mot sur Mandela. Mandela, est, vous le savez ou vous ne le savez pas, est Bushman, à peu près, presque à moitié du sang. C'est pour ça que Mandela a été tellement positif, tellement pacifique, tellement audible de tous les partenaires, même les plus durs de tous, Mandela, et il a gardé exactement ce qu'était l'esprit Bushman, ses aïeux.
Mandela va vous rendre service peut-être.
Oui. Et son physique est resté très Bushman.
Un petit peu de musique. Je crois que tu voulais ajouter un point de comparaison important.
Je voulais aider à situer l'importance des relevés de fresques, parce qu'on dit fresques, mais il s'agit de relevés papier, d'ailleurs très difficile à faire en raison des questions complexes de reproduction de couleurs, tout ça avec des moyens relativement limités, mais ça donne des relevés qui sont très beaux, très colorés. Et il ne s'agit pas des fresques originales qui, elles, je répète, sont sur les cavernes. Ils sont, enfin, ceux qui en subsistent, qui sont restés en Afrique du Sud à leur emplacement. Ce que je voulais dire, c'est simplement qu'on parlait de peuple premier. Ce qui est extraordinaire, peut-être, dans cette évocation des Bushman, c'est que c'est un peu comme si nous avions les habitants de Lascaux sous nos yeux.
Exactement.
C'est ça que peut signifier l'expression, toujours un peu maladroite d'ailleurs, de peuple premier. Premier par rapport à quoi? Par rapport à un second? Là, il en est de même pour la maladresse de l'expression primitif.
Primitif, c'est maladroit, mais premier, ça peut être extra.
Oui.
Le terme de maladresse est hautement discutable. C'est une autre stylistique, oui. C'est d'autres formes. C'est d'autres postulations. Mmh. Donc on ne peut pas parler de maladresse, c'est une autre économie de la reproduction.
Non, mais j'entendais dans le sens où il est toujours très difficile, on vient de le voir, de retraduire dans une autre mentalité directement quelque chose qui doit être vécu entièrement dans le cadre où il est compris.
Et ça, donc, c'est l'art et l'économie, c'est incompatible.
C'est ça qui justifie jusqu'à un certain point le terme de maladresse.
Mais je crois que Paul l'a montré, il est très difficile de se mettre dans la mentalité des autres et de comprendre la manière dont les Bushmen appréhendent le temps par rapport à la nôtre. Mais on peut le faire, mais au prix d'une adaptation mentale et d'une philosophie ou d'une sympathie, soit spirituelle, soit religieuse, soit même philosophique.
Est-ce qu'il y a des comparaisons picturales entre ce que l'on connaît de Lascaux et ces fresques que
nous avons ? Non, aucune, parce que l'art, comme dit M. Jean-Claude, qui est le grand spécialiste, vous le savez, de l'art
pariétal
des grottes d'Europe, montre clairement que cet art pariétal se fait au fond des grottes, dans l'obscurité, au prix de contorsions, dans le noir, et que c'était terriblement difficile de faire des peintures au fond des grottes. Et qu'il y a peut-être des conceptions religieuses toutes, qui nous resteront à jamais inconnues. Alors que l'art Bushman est un art, c'est ça que nous étudions actuellement de près, qui peut s'expliquer de manière diverse. C'est un art avec une philosophie du temps qui ne passe pas. Ce qui est là aujourd'hui, c'est demain encore, ça y est. Et ce qui sera que nos enfants, quand ils viendront, bien, ce que nous sommes aujourd'hui, ça sera toujours le présent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, il faut dire que la philosophie Bushman est la cosmologie ou l'approche de la vie donne une intégration totale à tout ce qui existe. Aussi bien l'homme, l'animal, les animaux. D'après eux, parlaient tous autrefois, mais l'homme a été si méchant que les animaux ne parlent plus. Les sources, l'élan, qui est un animal symbolique, le grand-père se figure lui-même dans une grotte en forme d'élan. Quand l'élan meurt, quand il meurt, cet élan qu'il a représenté demeure figuré dans la pensée et les yeux de ses descendants, et il est promu en étoile qu'on appelle l'élan. Et cette étoile qui s'appelle l'élan, vous pouvez suivre ma main qui se lève vers le ciel, il vient reparler aux descendants en clignotant. Ah, voilà l'élan qui parle, notre grand-père nous parle. Il y a donc une philosophie qui intègre totalement toute la nature animale, terrestre et même sidérale. Et c'est ça qui fait évidemment le charme et l'intérêt profond de l'étude que nous faisons pour répondre peut-être à ta question.
Et la beauté, c'est très poétique, tout ce que vous venez de dire.
Oui. Alors, il y a un sens de la beauté chez les Bushmen, puisqu'il m'est donné de dire encore un mot là-dessus. Il y a toutes sortes de catégories, nous essayons d'interpréter, d'après les informations que que j'ai pu personnellement avoir, chez les tout derniers survivants de cette préhistoire remontant à 10 000 ans, 12 000 ans, 15 000 ans, même depuis l'apparition de l'Homo sapiens, exactement, 60 000 ans. un lot de notions à réapprendre pour la. Alors, chez les Bushmen, c'est tantôt l'histoire qui est racontée par l'image, l'arrivée des diverses ethnies à travers des millénaires. Tantôt, ce sont des scènes comiques, il y a beaucoup d'esprit, il y a de l'humour presque partout dans les grottes. ou bien ce sont les critiques contre tel ou tel fait qui se sont opérées entre deux gens, deux personnes qui n'auraient pas dû se battre, puis elles se sont battues, alors on les représente. Et alors les chasses, les chasses à cours après les animaux, jamais on ne tue le plus bel animal du troupeau. On ne tue que la plus misérable, la plus pauvre, la malade. Jamais on n'aurait osé tuer le plus. Et quand on tue un animal, on fait toujours une prière de demander pardon à l'inconnu, au créateur qui s'appelle Krang. On l'appelle quelquefois Monsieur Mante, la Mante. C'est un autre domaine que je n'aborderai pas. Et on demande pardon pour avoir supprimé la vie à un être qui était pourtant là, bien vivant. Une sensibilité extraordinaire devant la vie, que nous n'avons hélas pas chez nous.
Et cela, il ne le faisait qu'une fois par mois, de tuer un animal.
Oui, alors, c'était pas, en principe, on est obligé de les manger quand même, les termites. Les termitières, qui sont un aliment riche en micro-éléments, en... Est-ce qu'il y a comme termites. Et on tue seulement de la viande une fois par mois, à peu près. Et on a choisi, je le dis à l'avance, la plus faible du troupeau, sauvage. On connaît les hares d'antilopes par cœur, antilope par antilope, mais sans qu'elles soient apprivoisées du tout. On les suit là où elles sont, on les écoute. Et seul le bushman ayant de bons yeux, suivez-moi bien, de bonnes oreilles, pas de nervosité, et capable d'endurer le froid glacial de l'hiver, peut subsister et donner naissance à une famille. Et de proche en proche, l'hominisation s'est faite par la dureté des temps, par le froid, la faim, la sécheresse, et garder les bons yeux, garder les bonnes oreilles.
La
sinon,
distance.
élimination. L'hominisation primitive, il y a 2 millions d'années environ, chez nous, s'est faite également par la grande épreuve du froid. S'il n'y avait pas eu l'époque glaciaire, nous ne serions pas là. Il y aurait quand même des australopithèques, et il y aurait peut-être des êtres, des pré-humains, mais notre civilisation n'existerait pas. Aujourd'hui, on est trop gâtés. On se déplace sans fatigue, on se chauffe sans fatigue. Je me tais.
Mais est-ce que les Bushmen, eux, sont en régression ou le contraire?
L'Afrique du Sud, voilà, Madame Nicole.
Madame... Non, mais allez-y. Oui. Allez-y, vous connaissez quand même mieux que moi.
Que sur une durée de... Jusque tout récemment, jusqu'à l'invasion de Van Riebeck, lorsqu'il a conquis l'Afrique du Sud, les Bushmen étaient chez eux, dans toute la partie méridionale de l'Afrique. Ils étaient nombreux, groupés par famille, jamais par tribu, mais toujours par groupe familial grandi. Ayant chacun leur domaine, ils n'étaient pas du tout des migrants, des nomades, ils avaient leur source bien connue, qui était leur appartenance, leur caverne qui était leur appartenance. Et c'était une vie donc répandue à travers toute l'Afrique du Sud. Quand les Blancs sont arrivés, ils ont anéanti jusqu'au dernier Bushman. Tu entends de gnou, c'est un mot Bushman qu'il faut prononcer gnou avec un clic. Tant de gnou, tant d'antilopes bubales et tant de Bushmen à chaque commando, statistique à l'appui du gouvernement, chaque sortie, nous avons éliminé. Ce qui fait que finalement, il n'en est plus resté que quelques restes à la fin du siècle dernier. Je parle des artistes. Au Kalahari, il y a un autre groupe mixte qui a perdu toutes ses capacités, qui sont les seuls Bushmen existants aujourd'hui, au nombre de 15 000, 20 000, mais complètement décrochés de leur civilisation, qui ne sont plus du tout représentatifs de ce merveilleux monde de la préhistoire qui nous fait retourner, comme on l'a dit, à nos sources.
Et je crois qu'actuellement, il est parqué dans des réserves.
Le peu qui subit son parquet et on y conduit les touristes. C'est un des génocides les plus navrants qui ait jamais été. Ils sont tous navrants. Mais l'anéantissement du dernier peuple de la préhistoire, avec toute sa richesse d'art, de folklore, d'émerveillement des étoiles, puisqu'il y a au moins 130 noms d'étoiles en langue bushman, avec ses claquements de langue, tout ça balayé. Les Européens pensant qu'entre les babouins et les bushmen, il n'y avait pas beaucoup de différence.
Et il faut dire que, pour aggraver notre cas de français, que comme il s'agissait d'un territoire qui ensuite a plutôt été considéré comme britannique, la chose est passée particulièrement inaperçue en France. Alors, mise à part, exception faite pour le petit historique des trois pionniers de la mission de Paris qui arrivent au Lesotho en, quelle année, Casalis
1833.
Voilà. Donc il y avait quand même un milieu, un petit milieu relativement restreint par le nombre, qui était en contact et qui suivait avec passion les progrès de ces trois Français qui sont appelés au Lesotho. Est-ce que tu veux rappeler en quelques mots ?
Je remercie l'intervenant. Ça me permet de parler de cette épopée extraordinaire qu'ont fait trois jeunes Français qui se sont offerts pour une société des missions évangéliques qu'on venait de créer. Et qui ont été corps défendants, parce qu'ils étaient préparés à aller en Algérie, ils avaient déjà appris le Coran pour apporter l'évangile en Afrique du Nord. Non, le gouvernement français m'interdit, vous allez à l'autre bout de l'Afrique. Un voyage de 3 mois, héroïque, ensuite des déplacements qui n'en finissaient pas pour monter dans les déserts, avec une page blanche devant eux, c'était la carte qui disait « désert inhabité ». Alors qu'en réalité, c'était un pays de montagne avec des sources, etc. Alors ces trois missionnaires du nom de Arbousset, Casalis, Gosselin, ont apporté avec eux l'évangile auprès du roi Moshoeshoe, et ils ont apporté avec eux la pacification pour toujours de ce pays, qui allait être anéanti par les bourgs, les Sud-Africains. Et ça a été un témoignage qui aujourd'hui est rayonnant à travers toute l'Afrique du Sud, le pays du Lesotho, pour bien prononcer le nom, Lesotho, est devenu un point de mire parce qu'il n'a jamais connu l'apartheid, il n'a jamais connu cette séparation des races, et aujourd'hui c'est devenu un exemple. Malheureusement, bien en but à des problèmes nouveaux dont je nous parlerai une autre fois.
Vous savez, mes envies de voyage par la poésie, j'ai trouvé un poème de Paul Dacquayo, qui est du Cameroun, et je pense qu'il nous fait aussi réfléchir sur la philosophie des différentes civilisations. Envoyez-moi des nouvelles, envoyez-moi des nouvelles de notre terre, sans nord et sans sud. Envoyez-moi des nouvelles de notre terre que je veux prendre dans mes bras comme le vent nu qui porte mon chant aux confins de l'aurore. Envoyez-moi des nouvelles de notre terre que je veux porter parmi les soleils, parmi les fleurs, libre comme mon corps en transe, libre comme le temps en friche. Envoyez-moi des nouvelles de notre terre de diamants et de vent. Bon, nous nous disons au revoir au mois prochain avec un autre thème et un autre invité. Mais vraiment, nous remercions notre Bushman d'être parmi nous aujourd'hui.
Le Quan Quan.
Le Quan Quan.
Ou le Tram.
Par Paul Ellenberger. Alors.
Voilà, ben nous Pierre. Remercions la patience des auditeurs qui auront pu suivre cet entretien jusqu'au bout. Nous leur souhaitons de s'intéresser passionnément à ce qui se trouve en dehors de l'Europe, en sachant qu'on a beaucoup à apprendre ailleurs.
Personne n'en doute.
Merci en tout cas d'avoir évoqué l'Afrique du Sud, qui n'est pas exactement aux antipodes, malgré ce que tu viens de dire en aparté.
Au revoir.
Au revoir à tous.
Au revoir.
Écoutez-nous le mois prochain, au 3 novembre. Je pense que nous discuterons sur comment participer à un monde meilleur. Nos invités, ce seront des invités de la dernière minute, mais de qualité de toute façon. Au revoir. Thank you.
Mamma, don't know, come here, Woduma.